Et tout de suite sur Radio Dio, c'est qui ou quoi? Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio, une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Donc bonsoir et bienvenue pour cette quatrième émission de l'année. Pas n'importe quelle émission, puisque c'est la rentrée de Vincent, 3 mois après le début. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Axel.
Je ne serai donc pas tout seul ce soir pour vous parler. Nous sommes deux. Comme d'habitude, il n'y a pas vraiment de lien entre les livres dont on va parler ce soir, si ce n'est qu'ils nous ont plu ou pas, mais surtout qu'on en parle ici. Ce soir donc nous vous parlons de Dystopie avec Espace lointain de Jaroslav Melnik et de...
Eh bien de Andy, un conte de fées de Tipex.
Eh bien voilà, qui ou quoi, le retour de Vincent, c'est parti. L'émission va donc se passer en deux temps. Je vais vous parler d'Espace lointain et puis Vincent nous parlera de Andy dans un second temps. Ceci étant posé, je l'ai vaguement évoqué en intro et justement on en a déjà parlé avec Vincent. En fait, je voulais vous parler de la difficulté de trouver une espèce de ligne directrice dans la ligne éditoriale de l'émission Qui ou quoi. Parce que dans Qui ou quoi, on vous parle d'environ 4 à 6 livres par mois. Et si on veut faire une émission qui nous ressemble un peu, eh ben, on va devoir taper tous azimuts. Personnellement, je ne lis pas que du polar ou que de la SF, ni que des romans du terroir, même si je pense que si je le faisais, ma vie serait moins compliquée. Bref, difficile de ne parler que d'un seul type de fiction, d'un seul type de livre. On essaye de refléter nos goûts qui sont quand même un tout petit peu éclectiques. À noter toutefois que, personnellement, un des styles fondateurs de mon histoire de lecteur, c'est la science-fiction. Alors j'ai lu les classiques de SF, de fantasy, mais je me suis surtout éloigné du truc depuis. Et j'ai un fossé énorme à combler. Et l'impression qu'il n'y a rien eu de bien depuis Tolkien, Frank Herbert, Asimov et autres Philip K. Dick. Bien sûr, ce n'est pas vrai, il y en a eu plein, mais comme je me suis justement ouvert à d'autres styles depuis ces découvertes, et qu'en plus la SF en littérature n'a plus forcément le vent en poupe ni la visibilité, j'ai eu du mal à raccrocher les wagons. Alors bien sûr, on peut largement nuancer le fait que ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire aujourd'hui n'ont pas le vent en poupe. Quelques exemples, la fantasy et ses mondes fantastiques et féeriques à base de magie sont loin d'être tombés dans l'oubli avec des œuvres comme Game of Thrones de George Martin et autres Assassin's Royal de Robin Hobb. En revanche, la science-fiction pure et dure est de moins en moins visible, tant il est vrai que plus ça va, plus on sait que ça va être compliqué de concrétiser ces histoires de voyage dans l'espace par exemple. Bien sûr, en parallèle de ça, la science-fiction, elle est pas mal ancrée au cinéma, mais c'est pas la science-fiction, c'est surtout le space opéra à la Star Wars. Mais sorti de Star Wars, justement, il y en a quand même, on peut noter qu'il y en a quand même de moins en moins. Il y a plus de 2001, il y a plus de Solaris. Et donc, bah, moi, de là où je suis, j'ai un peu noté que c'était pareil en littérature. La science-fiction est devenue une littérature de niche. Dans les littératures de genre, le polar se porte beaucoup mieux que l'imaginaire. Et même s'il y a toute une foule de festivals, d'adeptes et de fans, le genre a quand même de moins en moins d'expositions grand public. Arrivé là, vous me direz que je suis un peu parti loin avec mes considérations d'éditorialiste et que je ne vous ai pas encore parlé du livre dont je vous ai cité le titre en intro. Mais vous allez voir, j'y arrive. Comme je l'ai déjà dit, donc j'ai essayé Enfin non, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, mais j'ai essayé régulièrement de raccrocher les wagons de la SF par rapport à ces chocs que j'ai eus étant plus jeune en lisant les classiques. Et donc, après avoir commencé cette émission, qui ou quoi, eh ben, je me suis penché, j'ai essayé de choper un peu des titres de science-fiction. Et dernièrement, je me suis penché sur les différents prix, comme j'ai dit, qui sont pléthores. Et un livre m'a fait de l'œil en fait l'année dernière. Et je ne l'ai lu que récemment, et je vous en parle ce soir. Ce livre, donc, Espace lointain, il a eu le prix... Excusez-moi. Il a eu un prix, le prix Libre à nous, qui est un prix dont le jury est constitué de 250 libraires. Et puis, donc ça, je me suis dit que ça pouvait être une bonne porte d'entrée. Et le second truc, c'est que ce livre est chez un éditeur qui a le don de m'intriguer avec ses couvertures, qui sont toujours un peu graphiques, parce que oui, les couvertures de livres, ça compte aussi quand on aime l'objet livre. Cet éditeur, il s'appelle Agoulot, je vous en toucherai un mot un peu plus tard. Ce livre, donc, c'est Espace lointain de Jaroslav Melnik, et en fait, ben, c'est à cause de tout ce que je vous ai expliqué que je vous en parle ce soir. L'histoire d'Espace lointain se situe dans la ville de Mégapolis, un énorme complexe bétonné et sombre dans lequel nous allons suivre l'histoire de Gaber, qui est victime du syndrome de l'espace lointain. Arrivé à ce point de l'histoire, j'ai un choix un peu cornélien à faire, où je spoil un élément essentiel du récit, où je vous dis rien et je passe direct à l'analyse. Il se trouve que j'ai vraiment lu le livre sans rien savoir du tout, à part que c'était un livre de science-fiction qui avait eu un prix et une couverture bleue. Et donc, à part ce titre et sa couverture. Donc, effectivement, c'est un peu dur de vous donner envie de lire, ou même ne serait-ce que de vous donner un avis juste comme ça, parce que je sais qu'il y a peu de lecteurs qui sont comme moi. Donc c'est décidé, je vous spoil le gros truc, parce qu'en fait, à Mégapolis, donc ce complexe de béton, tout le monde naît aveugle. Et en fait, de syndrome, Gaber va en fait recouvrer la vue, et il va vraiment découvrir le monde dans lequel il évolue. Et bien sûr, tout l'enjeu du livre sera alors de décrire ce monde, comprendre ce monde, voir comment on peut le faire évoluer ou le détruire. Et Gaber va vite comprendre qu'il est sous contrôle et sous surveillance permanente. Je m'arrête là cette fois, j'arrête de spoiler. Bon, vous l'aurez compris, et puis je l'avais déjà dit au tout début de l'émission, on est sur une dystopie en bonne et due forme. Ce livre s'inscrit tout à fait dans la lignée de 1984, Le meilleur des mondes ou Le bonheur insoutenable. Et à l'instar de ces livres, Un espace lointain nous décrit donc un futur plus que pas joyeux, possible, plus que pas joyeux, et qui est censé, en même temps, nous parler un petit peu d'aujourd'hui. Un petit mot sur l'auteur, donc Jaroslav Melnik, qui est un auteur lituanien, ça c'est plutôt rare. Il est écrivain et philosophe, il a plus d'une vingtaine d'ouvrages à son actif, des essais, des poèmes, des romans. Mais il y en a seulement deux romans qui ont été traduits en français. Le premier s'appelle Les Parias d'Éden, et celui-ci, Espace lointain. Et puis, un dernier point sur sa bio, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est que c'est écrit partout que ses parents ont été déportés au goulag, paye ton argument commercial. Je voulais aussi arriver maintenant à vous faire un petit topo sur l'éditeur qui s'appelle Agoulot, dont j'ai dit que les couvertures étaient jolies. C'est pas l'éditeur le plus connu de France, hein, ni de Navarre, ni voire du monde. Il nous propose un catalogue de fiction et de polar par des auteurs de France, mais vraiment pas beaucoup, et surtout du reste du monde. Ils ont une carte rigolote sur leur site qui indique les pays d'où viennent leurs auteurs en mode Google Maps. Bon... À part le fait que leurs livres sont inattendus, ils ont donc une identité graphique assez forte, que moi j'apprécie énormément. Chaque couverture est en deux couleurs, dont le blanc, avec un objet en blanc détouré au centre. Bon, décrit comme ça, c'est pas forcément sexy, mais c'est simple et intriguant. Et comme j'ai dit, la couverture peut être très importante. Bon. Voilà, je vous ai parlé de l'histoire, je vous ai parlé pourquoi je voulais parler de ce livre, je vous ai parlé de l'éditeur et de l'auteur. Maintenant, je vais vous parler du livre à proprement parler. Ça fait beaucoup de parler dans une phrase, mais bon. Donc, ce Espace lointain, il est plutôt bien écrit, hein, sans être transcendant. C'est pas le style qui va me faire vous dire de le lire. En fait, ce qui fait la force du livre, c'est sa forme. En fait, il est constitué de chapitres courts qui ne sont pas forcément narratifs et qui ne portent pas forcément sur le fameux personnage principal Gabber. En fait, le livre se présente plutôt comme un énorme dossier avec plein de supports différents regroupés, genre des extraits de coupures de presse, des extraits de rapports, des extraits de livres inventés, des poèmes, et le tout ponctué avec des chapitres plus clairement narratifs qui portent le nom du personnage dont on va parler. Voilà, tout cela réussit en fait à constituer une description très complète, la plus complète possible de cette société, enfin idéale soi-disant, mais en tout cas qui ne fait pas le bonheur, loin de là. Pour le coup, ce procédé narratif, enfin ce procédé pour raconter l'histoire est parfaitement maîtrisé et il fonctionne à merveille, donc surtout dans la description de ce monde aveugle. Alors, en fait, ça permet d'appréhender vraiment tous les aspects du fonctionnement de ces sociétés et de tout ce qui l'entoure et de tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Sauf que bizarrement, eh ben, ça ne suffit pas. Même si le monde semble cohérent, il semble en tout cas extrêmement peu crédible. Je vais essayer de ne pas vous spoiler parce que je pense quand même qu'il faut que vous le lisiez. Mais donc ce monde, il est cohérent mais peu crédible. Et c'est justement que le bas blesse, parce qu'une dystopie, ça fonctionne à plein quand on arrive à s'y projeter. Alors bien sûr, quand on sait que les parents de l'auteur ont fait du goulag, on comprend un peu mieux ce que cherche à dénoncer l'auteur, la surveillance, le poids de l'administration, le manque de liberté, l'aveuglement de toute une population, elle a une métaphore qui est un peu, qui est clairement signifiée. Mais on y revient toujours, ce manque de crédibilité globale anéantit l'effet escompté et le propos. Reste donc un livre sympa mais sans plus, c'est un peu horrible de dire ça, c'est sympa mais sans plus, mais parce que les personnages sont bien incarnés, les péripéties sans être super haletantes font quand même qu'on lit le livre d'un bout à l'autre sans déplaisir en essayant de savoir la suite, même si au final, une fois qu'on l'a lu, on se dit que c'est quand même un petit peu convenu, et bon, tout ça pour dire que je vous le conseille toutefois, en attendant justement le prochain grand livre de science-fiction populaire qui mettra tout le monde d'accord.
Des coins qui puent, du venin, du pu, des contrats rompus, tout ce qu'il y a de corrompu. En guise d'accueil, le mauvais œil, l'avarice et l'orgueil, tout ce qui porte le deuil. T'auras gratteur d'acédique, squatteur sceptique, menteur psychotique, sondage et statistique. À tout âge, pas de rêve, ni même de confort, mais des cris de truie, du bruit et pas mal d'efforts. C'est tout ce que t'auras, des délinquants, des truands, des voyous, des wesh wesh, des yo-yé, des cris de you-you, des narvalos, sous au bout du rouleau, parce que son boulot, prêt à faire une boulette. C'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras. Drogue douce, drogue dure, et puis des ordures, képi, avec une paire de couilles à la ceinture, sans répit, humiliation, arrestation, détention, centre de rétention, égale expulsion, à tous les étages, de la frustration et du chantage, des séquestrations et des prises d'otages, foutage de gueule, belles paroles, promesses sans fin, du ras-le-bol et des grèves de la faim, l'arroseur arrosé, refus à l'embauche, motif trop bronzé, la chance que tu chevauches, la poisse qui te cravache, vache folle et grippe aviaire, c'est tout ce que t'auras pour finir sur une civière, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras. Chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras. Délocalisation ou bien licenciement, les pieds dans le ciment, guise de remerciement. Hommage, chômage, dommage, collatéraux, les gens sur le carreau, c'est la merde depuis que c'est l'euro, c'est tout ce que t'auras. Des pompiers pyromanes, des mythomanes, des kleptomanes, des nymphomanes, c'est la crise profonde et le malaise. Tous ces politiciens qui volent les fuites à l'anglaise, les financements occultes. Des paradis fiscaux, le système judiciaire qui est un fiasco. Racisme, jusque dans les stades de foot. Derrière la carte postale, t'auras tout ce qui te dégoûte.
C'est tout ce que t'auras chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce. Toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras. C'est tout ce que t'auras chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce. Toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras. C'est tout ce que t'auras chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce. Toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras. C'est tout ce que t'auras chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce. Toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras. C'est tout ce que t'auras
chez la douce France.
C'est tout ce que t'auras,
pays de mon enfance.
C'est tout ce que t'auras
chez la douce France.
C'est tout ce que t'auras.
Excusez-moi, c'était Prodige avec le morceau « Tout ce que t'auras ». On est de retour sur Radio Dio dans Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 895. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique de Vincent.
Et sans transition surtout, je reprends le fil de ma chronique et je reprends à ce soir. Que je venais de dire bonsoir. Bon, bref, j'ai la lourde responsabilité de vous faire aimer une bande dessinée dont il est dit par son auteur Tipex que le rapport qualité-prix est imbattable. Ce soir, j'espère vous offrir une chronique qui vous donnera envie de vous précipiter dans une librairie ou au moins dans une bibliothèque pour découvrir ce nouveau monument de la BD. Axel, l'œuvre présentée ce soir est tellement dense et intense. Tiens, ça rime, dense et intense, on pourrait faire un tube. Bref, la BD Tipex est tellement incroyable que j'ai peur de rester bien en surface. Que Tipex et les auditeurs, auditrices de Qui ou Quoi, que je sais de plus en plus nombreuses et nombreuses, me pardonnent. Ils le seront peut-être moins après cette émission, c'est la vie, que voulez-vous. Les lois du marché sont tellement impitoyables. Allez, prenons des risques, je me lance. Qui donc méritait de voir sa vie traduite dans une BD à la tranche argentée en 562 pages, en couleur, le tout découpé en 10 chapitres ? Attention ! Attention ! On est dans « Question pour un millionnaire ». Sachant que dans l'émission de Qui ou Quoi, il n'y a rien à gagner à part le plaisir de découvrir de nouveaux livres, je vous donne quelques indices. L'homme est né le 6 août 1928, un peu plus d'un an avant le krach boursier de 1929. Il est mort le 12 février 1987 à l'âge de 58 ans à New York. Il est connu dans le monde entier en tant que peintre, producteur musical, auteur de films d'avant-garde. Je sens que nos auditrices, auditeurs, les plus éveillés, ont déjà trouvé la personne dont je veux vous parler. Je vous donne encore un ou deux indices. Les peintures les plus connues représentent les personnages sans doute les plus médiatisés du XXe siècle. Sinon, de son apparence, on retiendra une perruque argentée et de grosses lunettes. Alors, qui est donc cet homme, Axel ?
Andy Warhol ?
Axel, tu as gagné, une petite récompense que je t'offrirai après l'émission. Vous l'aurez deviné, évidemment, c'est Andy Warhol. Bravo Axel, et bravo à nos auditeurs auditrices que nous n'avons pas eu en ligne. Andy Warhol, né Andrew Warhol. Andy Warhol, vous ne pouvez pas dire que vous ne le connaissez pas. Pénétrez dans une zone commerciale, franchissez les portes d'un magasin de déco, et certainement qu'en promo, vous aurez la joie d'acheter un mug ou de magnifiques coussins, voire même une repro pas chère. C'est le miracle de notre société de consommation actuelle. nous avons le pouvoir d'acquérir des repros des plus grands artistes à des prix défiant toute concurrence. C'est beau, c'est magnifique. Il manquait quand même quelque chose dans tous ces objets dérivés. Et oui, il manquait une BD. Et c'est Tipex, dont le nom est Kout, qui a relevé le défi avec un dessin crayonné virtuose. À plus d'un titre, Tipex, qui est d'origine hollandaise, a réussi à me transporter. Déjà, précisons que si vous aviez cru connaître la bio d'Andy Warhol sur le bout des doigts, vous risquez d'être un poil surpris. De poil, il en est question, bien qu'Andy ne semble pas être très fourni de ce côté-là. Si je m'aventure à décrire l'anatomie de notre artiste américain, c'est que Tipex touche à l'intime. Rien ne nous est caché d'Andy Warhol. L'auteur a cherché des anecdotes de dingue. Il est allé jusqu'à rencontrer des personnes qui avaient vécu à la Factory à l'époque. Imaginez, incroyable. La Factory, c'est quoi ? Pour celles et ceux qui ne savent pas, la Factory, c'était un peu le nid dans lequel Andy et ses amis vivaient à New York dans les années 60 et 70. Un immeuble qui servait de lieu de tournage, d'établissement pour personnes ayant de sérieuses déviances, d'atelier de sérigraphie, de salle de jeu plus ou moins sexuelle. Andy connaissait beaucoup de monde. Ou plutôt, c'est le contraire, beaucoup de monde voulait connaître Andy. Car Tipex nous apprend qu'Andy était plutôt introverti, voire timide, limite associable et souffrant de multiples phobies. Andy, souvent maladroit dans ses rapports avec les autres, mais finalement, Tipex dans sa BD, me le fait apparaître comme un personnage terriblement attachant. Andy qui ne révélera jamais son homosexualité à sa mère, qui vivait avec plus d'une vingtaine de chats. Je disais que beaucoup de personnes célèbres désiraient connaître Andy. Tipex nous les présente sous la forme de cartes découpées dans le livre. J'ai adoré personnellement cette idée très, très originale. Parmi les grandes stars qu'Andy a connues ou même aidées à se faire connaître, on pourra noter en vrac, évidemment, Lou Reed, accompagné de Nico du Velvet. Salvador Dali, je ne dirai rien sur leur entrevue, mais ça reste d'anthologie. Hein. En tout cas, de la manière dont l'a décrit Tipex dans la BD. Jackson Pollock, un artiste ayant créé l'action painting. Alors s'il y en a qui ne connaissent pas, je leur conseille d'ouvrir un livre d'histoire de l'art. Truman Capote, Mohamed Ali, Michael Jackson, parfaitement inconnu Michael Jackson, John Lennon, Debbie Harry, Kate Haring, Jean-Michel Basquiat, Madonna. Il y en a 120 à collectionner, 120 cartes à sélectionner. Bref, Andy a côtoyé les gens les plus connus du XXe siècle. Je n'entrerai pas dans les détails, d'ailleurs j'arrive à la fin de cette chronique. Que retenir d'Andy, un conte de fées ? La vie et l'époque d'Andy Warhol aux éditions Casterman. Pour moi, je dis que cet ouvrage est une petite merveille. Certains le trouveront peut-être chaotique dans son découpage. En même temps, cette construction est bien à l'image de la vie de l'artiste. Un artiste qui, comme tous les grands, est pétri de contradictions. J'oubliais de dire, et moi je l'ignorais jusqu'à ce que Tipex me l'apprenne, c'est un artiste, Andy Warhol, qui a bien failli disparaître suite à une tentative d'assassinat d'une certaine Valérie Solanas. Tipex, dans sa narration, nous décrit très bien tous ces événements. D'un côté, Andy apparaît extrêmement subversif, avec un regard glaçant sur la société dans laquelle il vivait, et de l'autre, on a un artiste ultra people, n'hésitant pas à créer le magazine Interview, par exemple. Je n'en dis pas plus. Stop ! Je rends l'antenne, lisez ce livre et offrez-le à quelqu'un que vous aimez bien pour Noël. Bisous les amis.
The beauty tender glow extinguished, the sky dull from a breeze. Ghostly the dawn was out its rent, uncanny, estranged to our nature, the light like lead. Ripped in the dark, a tiny sickle like a dying wind. Now stands a disc on this and crushes my heart.
Einstürzen de Neubauten avec le morceau Total Eclipse of the Sun. On est de retour pour la toute dernière partie, en fait, juste le générique de fin et la conclusion de Qui ou quoi, l'émission qui vous parle de livres sur Radio Dio. Donc voilà, je vous rappelle qu'on était deux ce soir avec Vincent, n'est-ce pas Vincent ?
Oui, Excel.
On a parlé de Espace lointain de Jaroslav Melnik aux éditions Agulo et de...
Eh bien, de Andy, un conte de fées, La vie et l'époque d'Andy Warhol, édition Casterman de Tipex.
Voilà. Donc, deux livres qu'on conseille quand même malgré tout, hein, même si on donne pas forcément envie de les lire, enfin surtout moi.
Ah bah mince, non, attends, mais moi j'ai essayé quand même.
Non, mais toi, oui, mais moi, pour le coup, j'ai pas dit que du bien du livre que j'ai lu, mais je pense que
c'est... C'est vrai que ça a été un peu
méchant. Ça reste un livre qui se lit si vous n'avez rien d'autre à lire et que vous tombez dessus.
Non, mais... Ça me donne encore plus envie de le lire.
Donc nous, on revient pas la semaine prochaine parce que c'est Radio Gaga qui revient avec le jeudi. Nous, on revient dans deux semaines. Je serai tout seul cette fois. Je crois que je devrais parler un peu bande dessinée. Je voulais faire une petite spéciale Tom, le scénariste de Spirou pendant un moment, et du petit Spirou qui est décédé. Et c'est vrai que j'ai relu des trucs il y a pas longtemps et ça m'a donné envie de vous faire une petite spéciale là-dessus. Je pense pas que je parlerai que de BD, mais en tout cas celle-là j'en parlerai un peu plus. On retrouvera Vincent le mois prochain pour une spéciale manga normalement. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Vincent?
Eh bien, écoute, chercher.
Bon, ben, écoute.
Mais c'est toujours un plaisir. Hein. J'espère que. Ça a été aussi un plaisir pour nos auditeurs.
Nos auditeurs ici.
Qui sont fidèles, on le sait.
Voilà. Et donc voilà, rien d'autre à rajouter. Enfin, moi, je l'ai déjà fait il y a deux semaines, mais je vais continuer. Il y a la revue Gonzaï qui parle de livres, de musique et de culture alternative qui lance sa campagne Ulule sur la fin de l'année, comme chaque année, pour renouveler pendant un an son projet éditorial un peu tout foufou. Et bon, ici, moi j'aime beaucoup, j'en avais déjà parlé. J'en ai parlé la semaine dernière de cette campagne, je la replace ici parce qu'ils ont un petit peu de mal à décoller apparemment. Bon, ça vaut ce que ça vaut, et voilà. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être comme à la radio duo un peu plus tard, je ne sais pas, ça reste la surprise pour vous autres auditeurs. Nous, on se dit donc à très bientôt. Bonne soirée.
Ciao, bonne soirée.